France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La Slonémesse, filmer l'histoire de Budapest à Auschwitz. Comment imaginer la belle époque dans l'Empire d'Autriche-Hongrie? Comment présenter le fils de Saul? Le passé peut-il être orphelin de la Hongrie et de l'Europe centrale? La parole à Bel Attar.
What is the filmmaking?
Qu'est-ce que c'est faire du cinéma?
When I was 22 or
Quand moi j'avais 22 ans, en particulier, c'était sous un régime particulièrement menteur. On disait communisme, mais ce n'était pas du communisme. C'était une humiliation du peuple, sans la moindre liberté. Et nous voulions changer ce monde-là. Pour moi, la caméra n'était qu'un outil. Pour agir.
Bel Attar sur France Culture en 2021. Bonjour Laszlo Némesz.
Bonjour.
Vous nous présentez Bel Attar ?
Qui vient de mourir. Grand cinéaste hongrois, qui est un visionnaire, avec ses films faits de plans séquences de 10 minutes, souvent en noir et blanc, presque tous en noir et blanc, qui sont des danses, des chorégraphies, de la poésie à travers l'espace et le temps.
Ici, il évoque l'oppression communiste qu'a connue la Hongrie pendant longtemps. Et on le sait bien, qui a réécrit l'histoire. Et nous savons combien l'histoire est un outil politique ici. Se saisir de l'histoire au cinéma, c'est aussi s'affranchir de toutes ces oppressions politiques, toutes ces narrations diverses. Vous, dans votre démarche, et notamment avec L'Orphelin, le film que vous présentez, Laszlo Némesz, il y a ces histoires, l'histoire imposée par le pouvoir, l'histoire vécue et puis l'histoire telle que travaillée par les historiens et les historiennes, et tout ça se croise et ce ne sont pas souvent les mêmes histoires. Quelle est l'histoire que vous portez ?
L'histoire des gens, l'histoire dans les cœurs. Je suis toujours intéressé par comment les faits rétrospectivement apparaissent ou sont compris comme des choses historiques. Sont vécus dans l'intimité des personnes, c'est ce qui me touche le plus. Donc, quelque part, comment réunir la grande histoire et la subjectivité. C'est toujours été sans le vouloir d'une manière consciente, c'est toujours été la force qui a guidé mon travail.
Avec une histoire très incarnée, l'histoire est toujours incarnée, nous le savons bien, même l'histoire des idées est incarnée parce qu'elle est portée par des individus, et la volonté de se placer au plus près des gens, ça permet sans doute aussi de saisir un moment particulier de l'histoire. C'est ce que vous faites dans L'Orphelin, c'est ce que vous avez fait dans Le Fils de Saul, être au plus près d'un destin individuel pris dans une histoire beaucoup plus large et souvent terrible.
Oui, parce que souvent le cinéma, à travers des codes, des conventions, donne l'impression que l'histoire est quelque chose d'extérieur. C'est un canevas, un fond. Alors que non, je pense que elle nous traverse. C'est-à-dire que moi, l'histoire comme carte postale m'intéresse moins. Ou à travers, évidemment, j'aime beaucoup les livres d'histoire, j'essaie de lire autant que possible sur des périodes qui m'inspirent. Mais j'essaie toujours de, à travers mon travail, le cinéma, de plonger le spectateur dans une réalité viscérale. Et c'est à travers cette réalité viscérale que j'essaie de donner aux spectateurs d'aujourd'hui la possibilité d'être plongé dans une réalité. Et ça, c'est le cinéma peut le faire, et souvent le fait pas, parce que je ne sais pas, peut-être que les gens ont moins, ceux qui font du cinéma ont moins de conscience historique. J'essaie de rendre l'histoire présente, voilà.
Elle est très présente, et d'ailleurs dans Orphelin, nous nous situons à Budapest, nous sommes en 1957, c'est-à-dire juste après l'écrasement par les forces soviétiques du soulèvement du peuple hongrois. L'histoire est là en toile de fond par petites touches. Il n'est pas nécessaire aussi pour faire saisir une période d'avoir des grands discours, des voix off narratives qui disent en 1957 à Budapest. C'est pas la peine, et vous travaillez par petites touches et ces touches-là sont saisissantes. Un sac fouillé dans une gare suffit à dire beaucoup.
Oui, mais c'est aussi, surtout, comment cette histoire, qui est l'histoire aussi du gamin, qui est le personnage principal du film, qui croit que son père est mort dans les camps, comment cette histoire, qui était un conte presque, qui lui a été racontée et qu'il garde très précieusement dans son cœur, comment cette histoire est revisitée. Et finalement, les couches du traumatisme historique deviennent sa propre histoire. C'est la question de ses origines. À l'intérieur de sa propre genèse, il retrouve les contradictions du siècle même. Donc, on peut plus mettre juste l'histoire en fond. L'histoire devient nous-mêmes quelque part.
Vous venez de dire qu'un conte a été raconté à cet enfant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son père aurait été tué, exécuté dans les camps, et puis il apprend que son père biologique est peut-être quelqu'un d'autre. C'est un conte qui lui a été raconté, mais vous-même, Laszlo Németh, vous proposez ce que moi j'ai ressenti presque comme une fable et aussi un conte, au sens où la valeur de ce qui est dit est universelle. Et c'est ça la force de l'écriture cinématographique, c'est ce va-et-vient entre ce moment historique précis et puis quelque chose qui parle largement au-delà de Budapest 1957.
Oui, c'est toujours, à mon avis, l'objectif du cinéma, c'est-à-dire garder la particularité, le spécifique, comme élément central, comme démarche, et puis à travers cette spécificité, on atteint l'universel. Encore plus ici, c'est une question de mythologie, c'est-à-dire les grandes histoires fondatrices, l'histoire au sens anthropologique, doivent être racontées, re-racontées par le cinéma, et c'est ce que j'ai essayé de faire ici.
Et oui, vous le faites avec brio, bien sûr, parce que ce film a quelque chose d'hypnotique, orphelin. Nous nous laissons conduire, nous nous projetons d'ailleurs sur notre propre vécu en constatant ce que vous avez évoqué, ces couches de traumatisme, puisque nous nous situons en Hongrie en 1957. Il y a l'écrasement du soulèvement l'année précédente du peuple hongrois, et puis bien sûr il y a le traumatisme de la Shoah. Puis il y a ces histoires inventées, parce que cet enfant, cet orphelin, se raconte une histoire. Il nie l'histoire à un moment où le pouvoir, oui, au bord des soviétiques, lui-même nie l'histoire. C'est la complexité aussi de ce que l'on perçoit et puis de ce qui nous est raconté.
Oui, c'est les faits historiques sont après redessinés, changés. Les faits historiques sont soit par le pouvoir ou entre les personnes. C'est ce qui se passe ici dans le film, c'est-à-dire la mère elle-même, la mère du personnage principal, devient la messagère de quelque chose qui est d'une autre époque, mais aussi elle change cette histoire. Et puis le personnage principal est obligé, à un moment donné, en faisant face à ce nouveau père, d'aller chercher l'histoire de ses origines.
Oui, chercher ses racines, oui, chercher ses origines, chercher son père aussi. C'est en cela que le film a une valeur absolument universelle, on l'entend bien. D'ailleurs, dans une quête généalogique, on a cité Bélatar, le cinéaste, qui pourrait être dans votre généalogie intellectuelle. Il y a là la volonté d'un gamin de constituer sa généalogie proche, qui est son père tout simplement. Mmh. C'est une préoccupation que vous avez eue dans votre rapport à l'histoire, reconstruire une généalogie familiale.
Je pense que je parlais d'histoire fondatrice, c'est une histoire universelle de la question de la filiation, le remplacement du père, ce qu'on peut transmettre à la génération d'après, et quel est notre rapport aux blessures qu'on porte en nous-mêmes ou à l'obscurité en nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on fait de des contradictions éventuelles. Et donc dans mon histoire, je retrouve les traces de cette quête, et dans mes films, j'essaye aussi de mettre en image des histoires où les ambivalences sont vivantes et les conflits sont souvent irréconciliables. Il n'y a jamais de solution simple à ces questions, et c'est l'histoire humaine qui est comme ça, je crois. C'est difficile d'être juste simplement de balayer certains éléments ou une part importante de nous-mêmes.
C'est cette vocation universelle de certaines œuvres d'art.
Écoute mes paroles.
J'écoute.
Il sera bientôt l'heure où je dois retomber dans les flammes, le soufre et les tortures de l'enfer.
Hélas, pauvre homme.
Garde ta pitié, mais écoute attentivement ce que je vais te révéler.
Parle. Je suis prêt à t'entendre.
Et tu seras prêt à me venger quand tu sauras.
Quoi ?
Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un temps à errer la nuit, et le jour à jeûner dans la prison de flammes, jusqu'à ce que les crimes de ma vie soient consumés et purgés. S'il ne m'était pas défendu de dire l'escret de mes cachots, je pourrais te faire un récit dont le moindre mot déchirerait ton âme, glacerait ton jeune sang. Tes deux yeux sortiraient comme des étoiles de leurs orbites, tes cheveux se dénoueraient, se dresseraient sur la tête, comme les aiguilles du porc-épic furieux, mais ces choses de l'éternité ne peuvent être confiées à des oreilles de chair et de sang. Écoute ! Écoute ! Oh, écoute ! Si jamais tu aimas ton père chéri...
Oh, Dieu !
Punis son lâche et sacrilège assassinat !
Assassinat ?
Le meurtre est toujours horrible, même s'il a des excuses, mais celui-ci, plus que n'importe quel forfait, est horrible, étrange et contre nature.
Parle vite !
Je te trouve donc prêt.
Une adaptation radiophonique d'Hamlet, Hamlet de Shakespeare, bien sûr, la pièce date de la toute fin du XVIe siècle, peut-être du début du XVIIe siècle. Ici, Hamlet, c'est Jean Marais dans cette adaptation de 1950. Laszlo Némès, Hamlet, le rapport complexe au père. On va pas mettre la psychanalyse dans une émission d'histoire, même si l'on pourrait. Le meurtre du père, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que l'on entend ici avec le spectre qui parle à Hamlet, c'est que on ne guérit pas de son enfance au sens où il n'est pas possible de s'affranchir de cette présence lourde du père. Et c'est ce que vit l'orphelin. Et d'ailleurs, lui, c'est enquiquinant puisqu'il en a deux.
Oui, et c'est, je pense que... En faisant le film, je me suis rendu compte que s'il y avait une histoire d'Hamlet, une histoire d'Oedipe à l'intérieur de cette... à l'intérieur du projet, ça m'intéresse beaucoup. Et encore une fois, c'est anthropologique. Le remplacement du père et dans notre cas, le gamin va mettre essayer de faire en sorte que l'usurpateur, ce nouveau père qu'il refuse absolument, soit vaincu. Et c'est ce grand conflit qui se déploie, d'autant plus difficile ce conflit que ce jeune garçon doit se rendre compte que c'est une partie de en lui-même qui est ce père qu'il déteste autant. Et alors que son père imaginé était d'une toute autre nature.
C'est difficile de vouloir tuer un père vivant et faire vivre un père mort dans cette histoire que vous portez, Orphelin. Dites-nous, Laszlo Némès, je vous demandais sur ces filiations généalogiques, il y a le père, bien sûr, il y a le plus loin aussi pour s'inscrire dans une histoire beaucoup plus vaste. Vous le savez, vous, dans votre rapport intime au passé, et là je reste sur le passé familial, vous savez, je ne sais pas, qui sont vos grands-parents, quel métier ils faisaient, vous avez ici des éléments qui vous construisent un imaginaire familial historique.
Sachant que c'est l'histoire de mon père, l'histoire d'Orphelin, du coup, je suis assez bien placé pour savoir que c'est une énorme tragédie au cœur de ma propre généalogie. Toute l'histoire du XXe siècle et ses blessures, ses traumatismes sont contenus dans mon histoire même, l'histoire de mon père, et puis fatalement dans mon histoire. Donc voilà, c'est comme ça que je suis hanté. Comme Hamlet est hanté par son père, je suis hanté par cette histoire et je dois la porter. Et je me suis dit quand même, c'est une pour ma grand-mère qui a subi ces événements d'une manière tragique. Je peux donner une voix à tout ce silence, à toute cette souffrance silencieuse qui a eu lieu en 1945 et puis après.
Avec ici ces voix individuelles, cette histoire incarnée que vous évoquiez, face à la masse que représente parfois l'évocation d'un seul nom qui couvre des millions de réalités individuelles. Et puis après, il y a aussi d'autres échelles à prendre en compte, l'échelle nationale, la Hongrie notamment. Saisir l'histoire hongroise dans ce mouvement-là, la spécificité hongroise au cœur de la Shoah. C'est quelque chose qu'il faut aussi placer parce que la Shoah mérite sans cesse d'être enseignée avec cette mémoire à raviver sans cesse, et puis les spécificités aussi. Est-ce que vous pensez que l'histoire de la Shoah est quelque chose de connu en Hongrie, au sens où vous, jeune homme, vous êtes né dans les années 1970, est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a appris ?
Non, mais c'était un tabou dans les années 80, quand j'étais encore... On est parti à Paris quand j'avais 12 ans, mais avant, j'ai vécu dans les années 80 en Hongrie, et c'était encore le régime tyrannique, communiste, et à l'époque, c'était pas du tout, c'était plutôt tabou, l'histoire de la Shoah. D'ailleurs, dans les années, tout le régime considérait que, à partir des années 50, le régime considérait que la Shoah était un événement entre fascistes et antifascistes. Ils appelaient ça les victimes du fascisme, et c'était plus des juifs qui étaient tués, c'était des antifascistes. Voilà. Donc il y avait un énorme problème de mémoire. Dans les années 80, cette chape de plomb existait encore. Donc non, l'enseignement n'était pas... Mais bon, j'avais 12 ans quand je suis parti, donc... mais malheureusement ou heureusement, ma famille était très... m'a transmis la mémoire et ces histoires traumatisantes des camps et de la survie et aussi de la mort.
C'est très fort ce que vous venez de dire là, entre ces mémoires, ces histoires contradictoires, celles portées par la famille, est-ce qu'on pouvait vous raconter à la maison, et celles que vous n'entendiez pas à l'école parce que c'était un tabou de parler de ça. C'est aussi dans la démarche de vos films, Laszlo Nemes, d'en parler dans Orphelin, dans Le Fils de Saul, de parler aussi de ça. Je ne dis pas qu'il y a une vocation pédagogique, parce que l'artiste cinéaste n'est pas là pour être pédagogue, mais c'est aussi en parler. Simplement, le fait de faire le film, c'est de mettre le sujet sur la table et de dire, voilà, ça mérite qu'on y porte attention d'une autre manière.
C'est ce qu'on peut créer, c'est de l'empathie, l'intersubjectivité. Le cinéma peut le faire. On met le spectateur devant une expérience, un voyage, et j'espère que ce voyage est toujours à l'intérieur de la subjectivité, c'est jamais quelque chose d'externe, c'est pas juste de l'exotisme, c'est d'aller vers au plus profond de l'âme et d'essayer de créer entre cette âme du spectateur et l'âme de la personne représentée un lien. Le cinéma peut le faire. Pourtant, on le fait pas très souvent, ou le fait de moins en moins souvent, j'ai l'impression. Donc, mais en tout cas, c'est mon ambition.
Ah vous avez le talent pour le faire, avec ici les difficultés, j'imagine, au moment du Fils de Saul. Vous avez dû réfléchir tellement auparavant à la manière de traiter justement ce moment de l'histoire et ce lieu de l'histoire. Nous sommes en 2015, le film sort, et ici, nous sommes au plus près de l'horreur. Quelles sont à ce moment-là vos réflexions ? Et là, c'est toujours dans une démarche historique, en se disant comment je peux faire, moi, cinéaste, pour montrer l'horreur des camps ?
La première idée, c'est qu'on ne devait pas reconstituer l'intégralité de la Shoah. On peut en montrer une petite part. On va au centre de l'horreur. Et pourtant, on n'essaye pas de recréer intégralement. On donne juste, on ouvre une petite fenêtre. On fait un portrait. C'est le portrait d'un homme qui travaille parmi les Sonderkommando, au cœur des crématoires. Et c'est en faisant ce portrait que de temps en temps, on arrive à ouvrir un peu la perspective. Mais au fond, on reste sur cet homme et on reste à hauteur d'homme, et on laisse le spectateur la possibilité de recréer par son imagination, par les bruits, par le hors-champ, le monde atroce et infernal des camps. Parce qu'on ne peut pas tout recréer, c'est juste pas possible. C'est pas en créant des images de synthèse, des perspectives inouïes, qu'on va créer plus d'horreur dans le cœur du spectateur. C'est plutôt l'inverse.
Au moment du Fils de Saul en 2015, oui. Vous êtes aussi l'héritier de toute une histoire de cinéma qui s'est intéressée à la représentation de l'horreur génocidaire dans ces centres de mise à mort. Là aussi, vous avez toutes ces réflexions avec tant d'expériences passées au cinéma pour représenter, avec tellement de discussions d'ailleurs autour de ça.
Oui, mais quelque part, la question et la réponse sont simples. C'est qu'est-ce qu'on peut montrer et pourquoi doit-on ne pas tout montrer? Et si on essaie de tout montrer, en fait, on réduit l'impact et on réduit la portée de ces événements. Et pour ça, il faut faire confiance au spectateur de pouvoir recréer en lui-même l'horreur.
Le Fils de Saul est sorti en 2015 et 40 ans auparavant, Claude Lanzmann s'exprimait à propos de son film Shoah.
Moi, j'aime pas le bavardage image. Aujourd'hui, il y a des films, je trouve, dans lesquels les images bavardent. Enfin, je veux dire, bon, il y a plus de paroles, il y a que des images et des images complètement inutiles. Enfin, et là, au contraire, plus on avance dans le film, plus les images, d'une certaine façon, deviennent rares et plus elles sont précieuses, du même coup. Mais la répétition, c'était parce que ça tient aussi au sujet, la répétition, à savoir que on ne peut pas fixer cette histoire. C'est comme un soleil. Noir qui aveugle complètement. Et il faut tout le temps, quand on travaille à ça, lutter contre l'oubli, contre son propre oubli. Moi, il m'arrivait de relire des textes, enfin les textes des interviews, enfin qui étaient décryptés, et puis je me disais, mais c'est pas possible, je n'ai pas lu cela. Or, je l'avais lu. Et je passais tout le temps mon temps à lutter contre mon propre refoulement. Si je puis dire.
En 1985, Claude Lanzmann sur France Culture, la Slonemesse, vous avez lutté vous aussi contre vous-même au moment de faire ces films.
Ouais, je pense que Lanzmann savait plus que moi sur toute cette extermination, mais j'en savais assez pour graver dans ma mémoire les choses les plus importantes. Et c'est plutôt des impressions que des choses factuelles. C'est à partir de ces impressions-là que j'ai essayé de travailler, de pas donner, d'en finir avec le paradigme au cinéma du survivant et de parler de l'histoire des morts. Que Primo Levi disait que c'est pas les survivants, c'est les morts qui ont la vraie histoire de tout ça.
Le Fils de Saul a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes et puis l'Oscar du meilleur film étranger. Avez-vous été étonné par certaines réactions qu'il a pu provoquer? Parce que, évidemment, le film a connu le succès, a été multi-récompensé, c'est complètement légitime. Et parmi toutes les réactions, il y en a qui vous ont étonné?
Il y avait quand même pas mal de réactions négatives. Étonné, je ne sais pas, mais en tout cas, la croisade de certains contre ce film était quand même assez vertigineuse. Que ça soit en Allemagne, la presse allemande souvent était extrêmement remontée, mais une partie de la presse en France aussi.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Il disait que je mettais Auschwitz en spectacle, par exemple. Alors que c'est exactement l'inverse. Donc ils n'avaient pas d'yeux pour regarder le film, et puis ils n'avaient pas de cœur pour le ressentir. Donc c'était absolument étonnant, oui. Mais bon, voilà.
Le Fils de Saul, l'histoire de cet homme qui fait tout pour enterrer un enfant qu'il pense être le sien, et qui est le sien dès lors, et l'enterrer pour qu'il évite le four crématoire. Avec cette approche ici, la Slonemesse, de ces moments lourds de l'histoire, nous sommes dans le Fils de Saul, au plus près, et même dans l'horreur. Avec Orphelin, nous sommes à l'extérieur, nous sommes après, nous sommes en 1957. Et pourtant, et c'est là la puissance aussi du cinéma, c'est de nous montrer que nous n'échappons pas à l'histoire. Parce que cette histoire-là, 1957, elle est encore très présente alors qu'elle s'est déroulée quelques années auparavant. Elle est censée avoir pris fin en 1945. Or, c'est toujours très présent. On sent que ce gamin ne guérit pas de cette blessure qu'il n'a pas connue. C'est ça le paradoxe.
Oui, il n'a pas connu la blessure, et pourtant il porte en lui cette blessure et cette contradiction. Et il porte en lui la contradiction du siècle même. Et pour ça, je pense que ce qui s'est passé en Hongrie est un très bon révélateur de ce qui s'est passé en Europe, de ce qu'on porte en nous-mêmes, sans le savoir forcément. C'est intéressant. On croit que l'histoire, c'est quelque chose de lointain. Et ça ne nous concerne pas. Et en Occident, on a un peu oublié que depuis 1989, que l'histoire était encore là. Et je crois que c'est cette mauvaise nouvelle, c'est que le cœur de la civilisation, il y a des forces qui ne veulent pas forcément la bonté infinie. C'est qu'il y a une obscurité inhérente à l'expérience humaine. Et qu'il y a de la contradiction et de l'ambivalence. Et que si on l'oublie, ça revient avec encore plus de force et plus de vengeance, quelque part.
Avec le cas de la Shoah en Hongrie, d'ailleurs, et en préparant cette émission, j'ai appris la rapidité de l'extermination des Juifs de Hongrie. C'est d'ailleurs sidérant parce que nous projetons sur d'autres pays ce que nous connaissons sur notre pays avec un processus. Pour la Hongrie, bien sûr, il y a aussi un processus, mais une extermination rapide en l'espace de quelques mois, quelques semaines.
C'était extrêmement rapide. C'était le dernier chapitre de la Shoah. La déportation des Juifs hongrois entre 500 et 700 000 personnes en quelques semaines, finalement, avec l'aide des autorités hongroises, l'aide active. C'était une des plus grandes communautés d'Europe qui a été décimée en quelques semaines. C'est quelque chose qui a, que je pense, ça marque très profondément la civilisation. Et ça a évidemment marqué la Hongrie, mais ça a marqué tout le continent, c'est l'extermination des Juifs.
D'ailleurs, là, on touche à quelque chose. Vous venez d'évoquer la Hongrie et le continent, c'est la place de l'Europe centrale dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que l'Europe centrale, qui a longtemps été au centre, apparaît très en périphérie des mouvements de l'histoire à partir d'un certain moment. Or, votre démarche est de dire non, regardez ce qui se passe ici parce que c'est de là que nous comprenons ce qui se passe autour.
Oui, et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale est partie d'Europe centrale. L'Autriche-Hongrie portait en elle-même les contradictions et tous ces peuples. Et toutes ces cultures et religions qui vivaient quand même globalement en paix, c'était presque un mélange des peuples que l'Europe après n'a jamais réussi à reproduire. Et avec l'Autriche-Hongrie est morte une certaine idée de l'Europe, d'une certaine manière. Et la Deuxième Guerre mondiale a mis une fin tragique à tout ça, encore plus en isolant les peuples davantage. Et donc le XXe siècle, plus encore que pour d'autres pays, l'Europe centrale a vécu d'une manière très tragique ce XXe siècle.
Oui, parce que c'est vraiment ici que tout se joue pour la Première Guerre mondiale. Vous l'avez dit, avec, dans ce moment qui nous intéresse, aussi cette effervescence culturelle de l'Europe centrale.
Thank you.
des danses hongroises du XVIIe siècle, que s'est réapproprié Ferenc Farkas, donc le compositeur hongrois. C'est cela aussi, la Hongrie observée depuis des siècles. Ce sont toutes ces musiques, toute cette culture, cet univers-là qui a été gommé aussi par cet horrible XXe siècle.
Oui, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de Hongrois qui ont donné des choses importantes à la culture mondiale, des grands photographes, des grands peintres, des grands cinéastes, des grands Hollywood étaient à moitié fondés par des réfugiés hongrois. La psychanalyse est née entre Budapest et Vienne. Beaucoup de contributions, et ça c'est un pays qui était quand même promis un avenir bien plus radieux que ce qu'il a eu finalement.
Dans votre film Sunset, Sloan Emmets, oui, vous plongez justement juste avant la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans ce monde très particulier d'ailleurs, celui de l'Autriche-Hongrie, avec ici, et c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, une association de peuples et de cultures qui, avec plus ou moins d'oppression bien sûr, mais était une proposition, et la place de la Hongrie, c'est quelque chose qui était une évidence dans l'Europe d'alors.
Oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est un pays qui se retrouve plus en périphérie. Voilà, donc c'est vraiment un destin tragique, mais intéressant. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, avec les guerres qui renaissent à la frontière de l'Europe, c'est tout un cycle historique qui n'a pas fini, qui on ressent encore les échos des blessures, des traumatismes de l'Europe.
Vous sentez que aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, l'invasion russe, ça mobilise dans l'esprit des gens, de manière consciente ou inconsciente, mais sans doute consciente, le souvenir de ces traumatismes du passé?
Oui, et puis les velléités d'empire de la Russie sont aussi héritées du 19e et 20e siècle, évidemment, plus tôt. La Russie était déjà très active auparavant, mais c'est quand même l'Occident qui ne pense pas en termes d'État-nation, qui ne pense plus en termes d'État-nation, par contre, à l'Est, quand on va vers la frontière et vers les terres beaucoup moins civilisées par l'Occident, d'une certaine manière, là, on retrouve des velléités et des forces qu'on ne suspectait plus.
Vous nous l'avez dit, hein, vous êtes resté en Hongrie jusqu'à vos 12 ans, donc 1989, hein,
oui, c'est ça.
Cette influence venue de l'Est, c'est-à-dire la domination soviétique en Hongrie, c'est quelque chose que vous avez connu. Est-ce que dans vos souvenirs d'enfant, cette présence est vraiment quelque chose qui est incontournable?
Oui, c'est quelque chose que je porte en moi. La mémoire de cette pesanteur, du manque de liberté, c'est extrêmement présent et je n'ai jamais oublié. J'ai dans mes films, jusqu'à aujourd'hui, la possibilité d'avoir en moi le sens de la liberté et le sens de l'oppression.
Et d'ailleurs, dans Orphelin, le sens de l'oppression est décrit avec finesse, parce que là aussi, il n'est pas besoin d'en dire beaucoup pour montrer l'oppression, mais saisir, ce qui est d'ailleurs très difficile, la peur. Comment exprimer la peur? Et c'est sans doute à travers cela, avec les non-dits en fait, que l'on exprime le plus ce qui terrorise les gens.
Oui, la surveillance, l'impression d'être surveillé, d'être épié, la paranoïa de l'individu dans ce régime totalitaire, c'est quelque chose que j'ai essayé d'inclure dans mon film.
Avec, évidemment, l'idée que nous sommes en 1957 à Budapest dans le film Orphelin, et que dès lors, même pas dans les mémoires, dans le vécu des gens, les souvenirs se projettent sur l'année précédente.
Un drame immense, drame où se mêlent l'espoir, le courage et la mort, bouleverse aujourd'hui la Hongrie. Ces premiers reportages nous arrivent de la frontière d'Autriche, où les postes hongrois ont supprimé dès les premières heures tous les signes de l'obédience aux soviets, étoiles et faucilles, pour les remplacer par les simples couleurs de la vieille patrie. À la frontière autrichienne, les premières nouvelles de l'insurrection arrivèrent avec les camions qui venaient chercher des médicaments pour les blessés du matin. On apprit alors que Budapest était en flammes et qu'une vague populaire anti-russe d'une violence extrême commençait à s'étendre d'un bout à l'autre du pays. Aussitôt, à la frontière, marquée maintenant de miradors inutiles, surgissaient des groupes qui passaient la ligne pour fuir le drame. Mais ces à côté ne faisaient pas oublier que le sang coulait. On parlait déjà de milliers de morts. Pendant qu'à Budapest, l'insurrection tenait tête, les régiments hongrois étaient passés en grand nombre du côté des révoltés, arrachant de leurs uniformes les anciens emblèmes. Cédant à la pression populaire, le gouvernement Nagy a arrêté les divisions russes. Un peuple, soviétisé depuis 11 ans, essaie à coups de sacrifice et d'héroïsme de faire bouger le monde et changer les destins.
Le journal des actualités françaises, nous étions le 31 octobre 1956. Laszlo Németh, ce mouvement de liberté qu'a porté le peuple hongrois en 1956, et dans le film Orphelin, on le sent, mais il est tellement dissimulé, parce que l'oppression, mais en l'espace de quelques jours même et quelques semaines, a été si forte qu'il n'est même plus possible de l'imaginer. Et d'ailleurs, dans Orphelin, je le disais, on est en 1957, donc on est quelques mois plus tard, et ça y est, tout a été étouffé.
Tout a été étouffé, le pays est devenu orphelin, l'Occident a abandonné la Hongrie, alors que la Hongrie voulait trouver les valeurs, retrouver les valeurs que l'Occident a mis au centre de sa civilisation. Et donc, c'était tragique. Et le pays est devenu orphelin, comme notre héros est orphelin, abandonné de tous plutôt.
Abandonné de tous, c'est très en colère. Il y a de ça aussi, mais c'est un gamin, il est en colère parce qu'il a besoin d'exprimer. Il va pas le faire, lui, par le cinéma. Il le fait en donnant des coups sur les murs et en étant rageur. Le sentiment que la Hongrie a été abandonnée en 1956 par l'Occident, ça c'est quelque chose qui ajoute un traumatisme à tous les traumatismes que nous avons évoqués, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la répression du soulèvement de 1956, et donc on peut y ajouter l'abandon.
Oui, l'abandon, et peut-être que c'est pour ça que, étrangement, une partie importante de la population hongroise aujourd'hui est pro-russe, ce qui est presque un syndrome de Stockholm, on a du mal à comprendre pourquoi l'Union soviétique a écrasé le soulèvement avec une violence extrême, a créé quand même une nostalgie de l'abuseur. Comme un peu dans le film, c'est celui qui porte la menace et l'abus et qui a caché la mère de l'enfant pendant la guerre et qui l'a maltraité, qui revient avec une force agressive quelque part le bienvenu, même si évidemment la mère elle-même est ambivalente là-dessus. Mais les émotions sont très imbriquées, sont très mélangées.
Et l'histoire nous permet de comprendre tellement l'actualité, puisque dès qu'il est question de la Hongrie et du positionnement politique du gouvernement hongrois, c'est toujours un étonnement en se disant, mais dans l'Union européenne, tiens, pourquoi il y a ce pas de côté? Vous, Laszlo Németh, vous l'expliquez par l'histoire aussi, et par ce regard complexe, à la fois avec l'Occident et à la fois avec le monde ex-soviétique et la Russie.
Oui, et on se retrouve dans une ère où la Hongrie se cherche, ne se trouve pas forcément, et l'Occident se cherche aussi. On est dans un moment historique où on est tous un peu en perte de repères.
Ouais, je veux pas pousser la comparaison trop loin, mais l'orphelin du film est en quête aussi sans cesse de repères. Et c'est vrai que nous sentons que dans votre film Orphelin, nous sommes à un moment où tout le monde cherche à construire ou à reconstruire quelque chose, voire tout simplement à stabiliser une situation. Mais tous les personnages du film sont dans ce moment de transition, une sorte d'équilibre.
Mais c'est aussi un moment de mélancolie. On est dans un purgatoire, on est dans un entre-deux, on est coincé quelque part. C'est aussi l'impression que j'avais quand j'ai grandi en Hongrie dans les années 80, c'est qu'on était nulle part, dans un no man's land. Et dans ce film, il y a ce no man's land. On est nulle part. dans ce système totalitaire.
Avec ici tant d'évocations qui nous conduisent à la littérature, et en écho à ce que vous venez de dire, Laszlo Németh, Milan Kundera qui nous parle de l'Europe centrale.
L'Europe centrale, c'est vraiment une unité culturelle. C'est une des branches spécifiques de la culture occidentale et une branche qui était extrêmement importante pour la culture moderne de l'Europe. Et je vais dire une chose, que ce grand foyer de la culture européenne a disparu, a été grâce à Yalta, grâce à cette annexion de ces pays occidentaux par le soi-disant bloc soviétique, autrement dit par une autre civilisation, a été complètement détruit. Cette disparition est, d'après mon avis, un des événements les plus importants dans l'histoire moderne de l'Occident.
Qu'est-ce qu'il fallait faire, Kundera ? La guerre ?
Non, il ne faut pas. Non, il faut faire la seule chose, de savoir. Savoir, et le savoir n'est pas oublié, n'est-ce pas ? C'est la seule chose.
Dans l'émission « La rage de lire » en 1980, Milan Kundera évoque donc l'Europe centrale et le savoir. C'est sa réponse finale. Laszlo Németh, j'imagine que vous le rejoignez là-dessus.
Absolument. Mais c'est bien d'avoir entendu Kundera.
Avec ici Kundera, nous sommes sur une évocation de l'Europe centrale. La Hongrie a-t-elle une spécificité ? Parce qu'on pourrait regarder avec ce qui se passe dans les autres pays. La Slovaquie, c'est juste à côté, avec des Hongrois en Slovaquie. La République tchèque n'est pas loin. L'Autriche est juste là, mais on l'a bien entendu, Vienne qui phagocyte un peu l'ensemble. Est-ce qu'il y a une spécificité hongroise ?
Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une... En tout cas, il y a une culture hongroise qui est très intéressante et qui hésite entre l'appartenance à l'Ouest et une appartenance à quelque chose de plus plus oriental. Et elle a toujours, la Hongrie a toujours été entre plusieurs dimensions. Et peut-être que pour ça, elle est intéressante.
L'écrivaine hongroise Agota Christophe, dans sa trilogie des jumeaux, nous sommes pareil, hein, pendant la guerre au début, au lendemain de la guerre après, l'oppression soviétique est là aussi présente, mais avec un aspect là aussi universel, au sens où ce n'est pas clairement dit que nous sommes quelque part en Hongrie. Cet entre-deux est évoqué d'ailleurs dans les romans d'Agota Christophe. C'est cet entre-deux qu'on le retrouve dans L'Orphelin. C'est ce moment d'incertitude que vous évoquiez. La Hongrie en est-elle sortie, d'après vous ? Comment vous le ressentez, ce poids du passé est-il toujours présent ?
Ah oui, je pense que le passé est absolument omniprésent. Et c'est pour ça qu'on a du mal en Hongrie à déceler les signes d'une paix sociale. S'il y a une espèce d'agressivité sous-jacente, une rage à l'intérieur des gens et une grande angoisse qui en résulte, même une dépression. Et je pense que le pays va pas très bien. Et c'est probablement ce que Agota Christophe ou d'autres qui écrivaient en français, si je m'abuse. Donc il y a une âme hongroise et elle est intéressante. J'ai toujours essayé de m'enfuir de la Hongrie et quelque part elle me rattrape à chaque fois.
Et puis il y a cette langue.
Il y a
là
cette
aussi,
langue
qui est très particulière.
Qui est une langue particulière qui n'appartient pas du tout, qui n'est pas indo-européenne, ouralo-altaïque et qui est un peu le passager clandestin en Europe.
Et alors, vous avez eu l'élégance, vu que vous parlez si bien français, puisque vous êtes arrivé ici à vos 12 ans, de dire Agota Christophe, mais en Hongrie, on aurait dit Christophe Agota, tout comme je devrais dire Németh Laszlo.
Exactement. On inverse, comme les Coréens ou les Japonais.
C'est ça.
Parce que je crois que le Hongrois est quand même plus proche de ces langues que des langues slaves ou indo-européennes.
Quelle place pour la judéité dans cette histoire-là ? Parce que nous évoquons la Shoah, bien sûr. On pourrait évoquer aussi la place réservée aux Juifs dans ce monde de l'oppression soviétique. Mais dans cette construction-là, vous vous situez où, vous, Laszlo Németh ?
Je pense que il y a eu une énorme pression vers l'assimilation des Juifs hongrois avant la guerre. Après la guerre... Beaucoup de gens ont essayé d'oublier qu'ils étaient juifs. beaucoup de personnes en revenant des camps ou en sortant des ghettos ont essayé de mentir après, ou ont menti à leurs enfants, ou n'ont pas dit leurs histoires, ou essayé de couper ces histoires. Et donc, du coup, il y a eu quand même un déracinement par rapport aux traditions. Il y a quand même une communauté juive en Hongrie. C'est la seule communauté juive en Europe centrale qui a survécu à la Shoah. Donc, il y a quand même une part... il y a 100 000 personnes, autour de 100 000 personnes en Hongrie qui se disent juifs, je crois. Donc elle existe encore, cette tradition, et d'autant plus que beaucoup de cultures, beaucoup d'artistes étaient juifs, ou de ceux qui sont partis, ou sont morts pendant la guerre. Mais il y a quand même une tradition, qui existe encore, mais évidemment beaucoup de tentations vers la ghettoisation, ou la chape de plomb, ou pour oublier tout ça, ou pour essayer de s'assimiler complètement. Donc voilà, c'est là où on se trouve en Hongrie.
Quand vous arrivez en 1989, à 12 ans, en France, à Paris, c'était à Paris, oui, que vous êtes arrivé, vous connaissiez déjà, je l'imagine, par cœur, voire vous les aviez en tête, tous les champs de propagande que vous aviez appris en Hongrie. Est-ce, oui, que vous avez eu l'impression d'être compris en arrivant en France, en discutant avec les camarades, en parlant de la Hongrie, en parlant de la guerre, ou en découvrant la manière dont la Hongrie et la guerre étaient présentées depuis la France? Est-ce que vous vous êtes dit, mais là, il y a une incompréhension totale?
J'essayais d'apprendre la langue, et donc j'essayais de me faire comprendre... un niveau basique, donc je ne conversais pas trop sur les questions politiques, mais c'est vrai que j'ai trouvé en 89 un pays avec des gens très ouverts, et c'était comme de l'oxygène pour quelqu'un qui était en train de se noyer, et ça m'a beaucoup apporté cette possibilité de partir de Hongrie. Donc la France m'a donné une chance dans la vie, et j'en suis très reconnaissant.
Mais alors, par la suite, au moment où vous faites vos études en France, oui, là, il y a les discussions politiques. Vous êtes passé par Sciences Po.
Oui.
Bon, bah, donc, discussions,
oui,
politiques.
Oui.
Non, mais, fallait présenter la Hongrie à chaque fois. Enfin, c'est mais quelque chose
de faire, ouais, oublier que j'étais hongrois, parce que j'avais honte d'être hongrois. Et donc cette volonté de m'assimiler complètement, de disparaître autant que possible dans le système républicain, disons. Après, évidemment, je suis intéressé par la philosophie politique, par les événements, par l'histoire. Donc, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Mais j'ai pas trop parlé de la Hongrie pendant mes années en France.
Dans votre intérêt pour l'histoire, justement, vous êtes lecteur de livres d'histoire. Alors, pour préparer les films, j'ose à peine vous le demander, parce que la réponse est évidente. Oui, vous lisez des livres d'histoire.
Oui.
Quelle est votre approche, justement, à tout cela? C'est une accumulation de données, de documentation?
On regarde beaucoup, on a des experts en histoire qui nous aident. Je repère bien les éléments historiques qui m'intéressent pour un film donné, donc j'essaie de lire ce qui est important pour le film, mais c'est aussi un radar pour dans ma tête, pour des choses qui notamment visuelles, des photos, des œuvres d'art qui m'inspirent. Donc c'est plutôt de l'inspiration, et je pense que j'ai en moi, quand j'ai un film en tête, l'intuition d'aller chercher des choses. Pour ce film, il y avait des journaux de gamins qui ont été publiés, des journaux qui ont été écrits par des enfants qui avaient 12 ans, 13 ans pendant la Révolution, et qui donnent une espèce d'impression directe de la Révolution, du soulèvement et de sa tragédie. Et ça nous a beaucoup aidé, ce genre de documents.
Oui, dans Orphelin. Alors, au-delà de la qualité de l'image, parce que c'est sublime, ce gamin est sensationnel, enfin, et la manière dont il est filmé est sensationnelle, puis l'importance du détail. Alors là, ce sont les décors, sans doute, mais pas seulement, les costumes. Ce souci du détail, que ce soit les chaussures abîmées, que ce soit la toute petite chose, fait que, et c'est ça qui est très fort dans votre démarche, vous nous plongez à Budapest en 1957, mais sans être dans de la reconstitution historique. Oui. C'est-à-dire, c'est l'évocation qui prend le dessus, mais nous saisissons ce que ça a pu être à ce moment-là. Une fête communiste, on voit ce que c'est, quoi.
On essaye. Moi, j'essaie de faire de l'immersion pour le spectateur. C'est-à-dire de vraiment faire en sorte que sur le spectateur sentent presque les odeurs, que ça soit très presque tactile et sensoriel. Et je vérifie évidemment si je vois des choses qui ont l'air d'être un peu dans qui font un peu cinéma, j'interviens. Je vais aller voir les objets. J'ai des gens avec moi qui travaillent qui sont extrêmement portés sur les objets, la véracité des la logique. Est-ce qu'on se disait des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on écoutait? Qu'est-ce que c'est la radio souvent aussi? Quel type d'univers sonore? De quoi il parlait? Donc j'ai parlé à beaucoup de gens et qui ont vécu à cette époque aussi pour avoir cette histoire orale à disposition.
Oui, parce qu'on le sent bien ici, hein, il y a ces positionnements de corps, ces comportements, ces mots utilisés, et tout ça, c'est travaillé, mais avec une précision qui, évidemment, nous emporte, et cet aspect hypnotique du film, au sens où il nous attrape, quoi. Ça, c'est quelque chose de très fort, qui s'inscrit dans tout ce que l'on a pu dire depuis le début de cette émission, c'est pluritraumatisme pour l'histoire de la Hongrie qui correspondent à d'autres traumatismes face à d'autres narrations, à des narrations plus officielles sur ce qui s'est passé. Dans votre film, par exemple, on le voit, il y a de la résistance à la domination, à l'occupation soviétique. Il y a l'évocation aussi de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Résistance.
Aujourd'hui, 27 mai 1945, le Conseil national de la résistance veut rendre hommage à un héros de la résistance française qui fut son premier président. Ce héros de la résistance française, nous vous l'avons fait connaître depuis la libération sous le nom de Max. Max s'appelait Jean Moulin. Il fut l'organisateur de beaucoup de petits mouvements qui, à travers le pays, réunissaient des patriotes. La résistance avait besoin de s'unir. Jean Moulin l'avait compris, il faisait la navette entre la France et le général de Gaulle. Le général de Gaulle lui faisait confiance et Marx nous faisait confiance. Et dans cette confiance générale, nous travaillons les uns et les autres à la libération de notre pays.
Louis Saillant, syndicaliste, résistant, bien sûr, nous étions le 27 mai 1945 pour un hommage à Jean Moulin. La SNMS, alors je vous posais une question piège, mais c'est vrai que dans vos films, hein, que ce soit Orphelin, que ce soit Le Fils de Saul, ce sont des individus anonymes ou à qui vous donnez une identité, mais qui permet de saisir l'histoire face à des grandes figures qui sont souvent mises en avant pour raconter cette histoire-là. Mais Jean Moulin?
Jean Moulin est moins connu que ce qu'on pense. On voit son nom très souvent, mais on connaît pas si bien que ça. Et puis, on connaît beaucoup, très peu de choses sur ces deux dernières semaines. Très très peu de choses. Au moins, quand il a été arrêté par la Gestapo, à partir de là, il y a relativement, je dis pas qu'il y a zéro information, mais il y a relativement peu d'informations. Donc, en faisant Moulin, on a essayé de pas faire un biopic. C'est un film très immersif. On parle de Moulin à partir de en racontant ses 10 derniers jours en France. Avant son arrestation, juste avant son arrestation et pendant son arrestation. Et c'est un homme qui le mérite. C'est une idée de la France que j'essaye de rendre encore une fois directement accessible et pas quelque chose de lointain.
Une idée de la France qui conduit à l'universel. Hein, c'est l'esprit
qui conduit à l'universel, puisque Moulin c'était quelqu'un qui adorait l'art. C'est un très bon dessinateur, un peintre. Il avait un monde à lui. C'est pas juste un homme politique. Il était, il avait une mission. Et cette mission, il la portait dans son cœur.
Et c'est ça aussi, hein, ce personnage, cette figure, Jean Moulin, l'individu la France, l'universel, orphelin. On l'a bien dit, hein, c'est ce gamin, c'est la Hongrie et c'est ce message universel. Merci vivement, Laszlo Németh, d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci. Et voici le fil histoire dans le cours de l'histoire. Le fil histoire associé au fil culture G est à retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur l'appli Radio France. Avec Camille Lefebvre, historienne, aujourd'hui nous partons en 1898, une mission d'occupation coloniale dans l'ouest du Niger.
Des milliers de morts, des centaines d'individus réduits en esclavage, des villages brûlés et une famine de plusieurs années, c'est le bilan de la mission Voulez et Chanoine. Les exactions de cette mission coloniale française firent scandale à la fin du XIXe siècle. Mais qui s'en souvient aujourd'hui? En 1898, une mission d'occupation coloniale dirigée par deux officiers français, Paul Voulez et Julien Chanoine, arrive dans l'ouest du Niger. Cette mission est conçue pour impressionner les populations. Elle se compose de 8 Européens, 600 tirailleurs, 800 porteurs, 300 femmes et des milliers d'animaux transportant 25 tonnes de matériel. La troupe se nourrit sur le pays, elle pille et pratique la razzia d'esclaves. Il lui faut des dizaines de tonnes d'eau et de nourriture par jour. Rapidement, les populations effrayées fuient les villages, bouchent les puits et vident les greniers. Le chef de mission, le capitaine Voulez, furieux, décide de se venger. Il ordonne de tout brûler sur un rayon de 15 km. Et à partir de là, la troupe opère une série de massacres provoquant des milliers de morts. Prévenu du désastre par un officier déserteur, l'armée française envoie le colonel Club pour l'arrêter, mais Voulez refuse et assassine Club. Ce sont finalement les tirailleurs qui l'arrêteront. L'affaire fait scandale à Paris. Dans le discours colonial et médiatique, Voulez et Chanoine auraient été victimes de la soudanite, une forme de folie coloniale liée au climat. Contrairement à ce discours, ce type de violence n'était pas exceptionnel ou lié à des comportements individuels. Les pratiques de cette mission correspondent à celles mises en œuvre de façon ordinaire dans les années 1880-1900 au Burkina Faso, au Mali, à Madagascar et avant en Algérie. Les immenses colonnes pratiquant des feux de salve sur les populations civiles, tirant en canon sur les villages et les brûlant, sont des phénomènes récurrents. Parce qu'elle a fait scandale, la mission est extrêmement bien documentée. Les milliers de pages d'archives qui la concernent ont été analysées par de nombreux historiens et historiennes, nigériens, français ou britanniques. En Europe et en Afrique, cette mission a aussi été l'objet de plusieurs romans, films, téléfilms, documentaires et BD. Pourtant, tous les 20 ans, la mission est redécouverte. De nouveau, on dénonce ces crimes et les tabous qui les entourent, avant d'immédiatement les réoublier. Cet événement ne fait pas mémoire. Ces dernières années, le succès du documentaire britannique African Apocalypse a déclenché une plainte devant l'ONU de 4 communautés des villages dans lesquels les massacres ont eu lieu. Si bien qu'en 2021, le rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition a demandé à la France de réparer les préjudices causés au Niger lors de la colonisation. Le travail historique sur cette mission a été largement réalisé. Les faits sont établis, les preuves sont connues et identifiées. Il est temps d'arrêter de l'oublier et que les violences de l'occupation coloniale entrent dans nos mémoires et dans le récit général de l'histoire de France.
Merci beaucoup Camille Lefebvre. Le fil Culture G, c'est à retrouver partout, et notamment sur l'appli Radio France. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Margot Page, à la technique Grégory Wallon. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.